France Inter.
Bonjour à tous, c'est une histoire de famille, mais aussi d'argent. Vladimir Poutine a-t-il une fille cachée qui a fait ses études à Paris? La question est sérieusement posée par des médias ukrainiens et russes. Bonjour Maxime Tellier.
Bonjour.
Vous avez enquêté sur le parcours de cette fille présumée de Vladimir Poutine, mais aussi sur sa mère, l'une des femmes les plus riches de Russie. Et puis nous recevrons Pierre Lebovici. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Disclose. Et vous venez de publier une longue enquête sur les pratiques assez édifiantes des fournisseurs de la marque Decathlon à travers le monde.
Secret d'info, Benoît Colomba sur France Inter.
C'est une fille dont le visage trahit l'identité de son père. Une fille qui a déjà changé 3 fois de nom de famille, qui mène une vie publique et profite des loisirs de la jeunesse dorée. Nous avons trouvé la ville où la 3e fille de Poutine a vécu pendant ces dernières années.
Voilà un extrait d'un reportage diffusé par la télévision ukrainienne 1 plus 1 en novembre dernier, l'une des chaînes privées les plus regardées en Ukraine. C'est un peu le TF1 ukrainien, un reportage qui évoque l'existence d'une présumée fille cachée de Vladimir Poutine. On vient de l'entendre, Maxime Tellier. Elle est présentée comme la 3e fille du président russe. Il y en a donc 2 autres.
Oui, mais ces 2 autres filles, elles sont officielles. Elles s'appellent Maria et Katerina. Elles sont nées dans les années 80, issues d'un premier mariage de Vladimir Poutine. Mais il y en aurait donc une 3e, celle-ci illégitime. Elle s'appelle Elisaveta Krivanogik. Elle est née en 2003 à Saint-Pétersbourg et a aujourd'hui 21 ans. Et c'est donc elle qui, d'après cette chaîne de télévision ukrainienne, aurait été étudiante à Paris.
Et où ça, précisément?
Eh bien, dans une école qui forme au métier de la culture et de l'art, l'ICAR, c'est le nom de cette école, située dans le 8e arrondissement, près des Champs-Élysées, avec 1000 étudiants. C'est une école réputée, créée il y a 60 ans, qui compte plusieurs campus en France et dans le monde.
Et à quel moment exactement cette jeune femme aurait étudié dans cette école? Alors,
eh bien, de 2020 jusqu'à l'été 2024, donc 4 ans, ce que me confirme une source proche de l'établissement.
Et cette école, est-ce qu'elle vous confirme également que c'est bien la fille de Vladimir Poutine?
Alors non, on ne fait aucun commentaire sur ce point-là, mais j'ai pu rencontrer des étudiants qui étaient dans sa classe. Ils m'ont expliqué qu'elle était une élève plutôt discrète, sans garde du corps, francophone, parce que les cours sont en français. Et selon ces étudiants, elle ne parlait pas de politique et encore moins de son père. Denis Kataev est un journaliste russe réfugié en France et il s'est intéressé de près à cette affaire.
Une amie de moi qui était aussi à l'école avec elle, elle a dit qu'elle était gentille, elle est très ouverte aussi, elle est très modeste, on peut dire ça, elle est très progressiste, elle n'était pas cachée à l'école.
Ce journaliste la présente comme quelqu'un de progressiste. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, elle appartient clairement à la jeunesse dorée russe et elle fréquente aussi des lieux considérés comme étant des espaces de liberté, notamment le Revesnik Bar à Moscou, une boîte de nuit dont le patron défendait en 2021 les valeurs démocratiques et l'inclusion. Et c'est un bar où elle a justement été DJ le temps d'une soirée cette année-là. Donc là, elle est derrière les platines. Ce jour-là, sa venue fait l'événement avec beaucoup de vidéos postées sur Instagram qu'on arrive encore à retrouver. Elle affiche aussi son goût pour le luxe et pour la mode. Sur d'autres vidéos, on la voit visiter le Louvre à Paris. Sur Instagram, elle s'abonne à Dior, à Gucci. Elle séjourne dans de grands hôtels et elle lance même sa propre marque de mode.
C'est Gleb. On l'aime.
C'est elle qu'on entend dans cette vidéo. On la voit parler de ses amis mannequins, un jeune homme et une jeune femme qui prennent des poses suggestives et jouent avec la caméra sur un fond noir avec des effets de lumière. Voilà comment elle résume aussi son quotidien à l'époque au réseau social russe Clubhouse.
Je vis dans mon monde artistique, je vis dans ma bulle. Je ne regarde pas la télévision. Parfois, je regarde les actualités sur des chaînes Telegram, mais pas vraiment de manière assidue. Je regarde des défilés de mode, j'achète le magazine Vogue. J'aime aller dans le restaurant du coin pour manger une bonne pasta, discuter avec mes amis des derniers potins.
Mais
elle donne donc des interviews, mais à ce moment-là, est-ce qu'on pense que c'est peut-être la fille de Vladimir Poutine ?
Eh bien oui, parce qu'en fait, les premiers à avoir abordé le sujet, ce sont des journalistes russes, en l'occurrence le média d'investigation Project. Et ce qui intrigue, c'est la grande liberté dont semble bénéficier Elisaveta Krivanogik, comme l'explique le journaliste russe Denis Kataev, qui a beaucoup échangé avec elle, et pour qui il y a vraiment beaucoup d'éléments qui la désignent comme la fille du président russe.
Comment c'est possible? Elle est fille de Poutine et en même temps, elle n'est pas cachée. Elle était souvent en Europe, elle était ouverte. C'est pourquoi, pour moi, c'est intéressant. Comment c'est possible? C'est vraiment un peu bizarre.
Et ce qui est bizarre aussi, c'est de la retrouver étudiante à Paris pendant la guerre en Ukraine. Alors on a dit que c'était la télévision ukrainienne qui avait révélé cette information. Comment ça s'est passé en fait ?
C'est la journaliste ukrainienne Valeria Kolinka qui a été prévenue par une source anonyme que la jeune femme était scolarisée en France, mais sous une fausse identité. Et ça, la journaliste l'a appris grâce au piratage des données du principal système de réservation des compagnies aériennes russes, une cyberattaque qui serait d'ailleurs liée à des hackers ukrainiens. Et c'est donc dans ces fichiers que la journaliste a trouvé ce qu'elle cherchait.
En cherchant dans les données, nous avons découvert qu'elle vivait sous un faux nom. Elle a changé son deuxième nom pour Olegovna et son nom de famille pour Rudnova, ce qui signifie « la fille d'Oleg Rudnov » en russe. Or, Oleg Rudnov était un proche de Vladimir Poutine.
Oui, le fait que ce faux nom de famille renvoie à un proche de Vladimir Poutine, évidemment, ça renforce encore le mystère.
Oui, et ce qui est encore plus troublant, c'est que c'est avec le même faux nom qu'elle a voyagé en Russie, comme l'explique encore la journaliste Valeria Kolinka.
Avec ce nouveau nom, elle a voyagé, notamment entre Sochi et Saint-Pétersbourg en 2021. Et la date de naissance indiquée sur le billet était la même que sous son vrai nom.
Et donc c'est avec ce faux nom qu'elle s'est inscrite comme étudiante à Paris. Et au moment de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, il va se passer quelque chose autour de ses réseaux sociaux.
Oui, parce qu'on l'a dit, la jeune femme est très active sur les réseaux. Elle dispose notamment d'un compte Instagram où elle publie énormément de contenu sous un pseudonyme Louisa Rose pour Louisa Rozova. Mais il existe un autre compte sous le même nom qui publie lui aussi des photos de sa vie quotidienne depuis plusieurs années. Et lorsque la guerre éclate, il y a des centaines de commentaires négatifs et d'insultes postés sur ces deux comptes et où elle est clairement associée à Vladimir Poutine.
Et alors ?
Et à ce moment-là, un message plutôt inattendu apparaît sur le deuxième compte Instagram le 9 mars 2022. Nous l'avons fait lire.
Vous voulez savoir mon opinion sur la situation dans le monde en ce moment ? Pour être honnête, je ne peux même pas imaginer les conséquences qui m'attendent après ces mots. Je tiens à dire que j'ai personnellement une attitude catégoriquement négative à l'égard de toute forme de violence à l'encontre de personnes sans défense. Mais je suis sincèrement surprise que certaines personnes croient que je suis impliquée dans ce qui se produit dans le monde ou que j'aurai une opportunité de changer toutes ces choses. Réfléchissons ensemble et répondons à cette question pour nous-mêmes. Un homme fou au point de déclarer littéralement la guerre au monde entier abandonnera-t-il ses décisions à cause d'un quelconque sentiment parental ? Que chacun réponde à cette question pour lui-même.
Oui, c'est assez troublant. Dans ce message, on entend la condamnation très claire de la guerre et l'évocation d'un lien parental.
Et ça va même plus loin. Écoutez cet autre message publié le 8 avril 2022, toujours sur le même compte Instagram.
Je compatis avec le peuple ukrainien. Je condamne les actions de l'armée russe et le génocide en Ukraine. Non à la guerre.
Mais attendez, est-ce que c'est possible que celle que des médias russes et ukrainiens présentent comme la fille de Vladimir Poutine ait pu écrire un tel message ?
En fait, c'est un peu le brouillard. Les messages sont très bien écrits et ils font mouche hein, parce que des centaines d'internautes la félicitent, elle, dans les commentaires. Mais est-ce bien elle, Elisaveta Krivanogik, qui est derrière ce compte et donc derrière ces messages ? Pour la journaliste ukrainienne qui a enquêté sur la jeune femme, la réponse est non. Elle considère que techniquement, il y a des choses qui ne collent pas. En tout cas, si c'est un faux compte, il est vraiment très bien fait.
Quoi qu'il en soit, ce qu'on comprend, en tout cas Maxime, à travers ces messages, c'est qu'il y a un enjeu politique énorme qui dépasse en fait la jeune femme.
Oui, avec une guerre de communication entre la Russie et l'Ukraine. Après cet épisode, en tout cas, elle a fermé tous ses comptes sous le nom de Louisa Rozova, comme en témoigne le journaliste russe Denis Kataev.
Elle a supprimé tous les comptes et tous les échanges avec moi. Elle a supprimé le compte sur Telegram. Elle a supprimé tous les contacts parce que moi, j'ai essayé de contacter avec les amis de Luisa sur Instagram, mais pas réussi parce que tout le monde m'a dit que non. On n'a plus de liens avec Luisa Rozova.
Donc au printemps 2022, elle disparaît des réseaux sociaux, mais elle est toujours étudiante à Paris.
Oui, dans cette école qui forme donc au métier de la culture et de l'art, dont elle sort diplômée en juillet 2024.
Et ensuite alors ?
On perd sa trace. Est-ce qu'elle est retournée en Russie ? Est-ce qu'elle reste en Europe ? On ne sait pas.
On perd sa trace, mais finalement, Maxime, est-ce qu'on lui a déjà posé directement la question sur le fait de savoir si elle avait un lien avec Vladimir Poutine ?
Alors oui, Denis Kataev l'a fait en août 2021 pour un média russe en ligne qui s'appelle Seriously. Écoutez son échange avec elle.
Avez-vous déjà rencontré Vladimir Poutine en personne ?
Je ne répondrai pas à cette question.
D'accord, c'est votre droit de ne pas répondre. Une dernière question sur ce sujet alors. En reformulant une question célèbre, si vous rencontriez Vladimir Poutine, quelle question lui poseriez-vous ? Est-ce qu'il y en a une ? Que lui diriez-vous ?
Je ne sais pas. Je poserai probablement une question.
Et quelle question ?
Pourquoi ?
Pourquoi ? Bon, comment il faut interpréter cette réponse ?
Difficile à dire. En tout cas, écoutez là-dessus le commentaire de Denis Kataev.
J'ai l'impression, elle accuse Poutine. Pourquoi tu as agi ainsi avec moi ? Pourquoi je ne peux pas mener une vie ouverte, normale, comme mes amis en Russie et en Europe ? Pourquoi je dois éternellement répondre à des questions sur toi ? Pourquoi l'ombre de Poutine me poursuivra toujours ?
Oui, donc ça, c'est l'interprétation de ce journaliste russe à ce pourquoi un peu énigmatique. En tout cas, elle ne fait rien pour lever l'ambiguïté sur la question.
Oui, elle entretient même cette ambiguïté. Vous vous rappelez de la vidéo où elle apparaît avec des amis mannequins ?
Oui, on a entendu un extrait tout à l'heure.
Eh bien, dans cette vidéo, elle porte un masque où il est écrit « masque de fer ». C'est une référence directe à l'enquête du média russe Project qui avait dévoilé son existence et qui s'appelait justement « masque de fer ». Et cette façon de jouer, en quelque sorte, sur ce lien présumé avec Poutine, elle est confirmée par la journaliste ukrainienne Valeria Kolinka.
Quand les médias ont commencé à parler d'elle en 2021, elle n'a jamais ni confirmé ni démenti que Poutine était son père. Elle évitait de répondre directement, mais elle donnait des indices. Dans les commentaires de ses photos sur Instagram, par exemple, quelqu'un a écrit « Si Poutine est ton père, habille-toi en vert ». Et la photo d'après, elle était habillée en vert.
Et ce qui alimente les commentaires, c'est surtout son apparence, son visage. Elle ressemble vraiment à Vladimir Poutine. Certains n'hésitent pas à dire que c'est son portrait craché. Une université anglaise spécialisée dans la reconnaissance faciale s'est même penchée sur le sujet et a conclu qu'un lien familial était probable. Et puis, il y a un document, un certificat de naissance que des journalistes russes d'investigation disent s'être procuré en 2020 et qui mentionne sa ville de naissance, Saint-Pétersbourg. Mais étrangement, le nom du père n'apparaît pas. En revanche, le deuxième prénom intrigue, Vladimirovna, ce qui veut dire en russe « la fille de Vladimir ».
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Alors on a vu que celle qui est présentée par certains médias russes et ukrainiens comme la fille cachée de Vladimir Poutine avait étudié à Paris jusqu'à l'an dernier, et cela dans la plus grande discrétion. Et Maxime Tellier, vous vous êtes également intéressé à la mère de cette jeune femme.
Oui, parce qu'elle aussi a un parcours très intrigant. Elle s'appelle Svetlana Krivanogik, elle a 50 ans et c'est l'une des femmes les plus riches de Russie. C'est le média russe d'investigation Project qui en 2020 s'intéresse à elle et publie un article et une vidéo.
Le sujet du jour, c'est une banque et l'une de ses actionnaires en particulier, l'intrigante businesswoman Svetlana Krivanogik.
Le média russe cherche donc à comprendre l'origine de la fortune de cette femme. À la fin des années 90, Svetlana Krivanogik vit alors dans un appartement type HLM. Elle est femme de ménage et étudiante en économie à Saint-Pétersbourg. Et elle rencontre un officiel local, Vladimir Poutine, qui travaille alors à la mairie. Et toujours selon les journalistes russes, Svetlana Krivanogik prend plusieurs fois l'avion avec Vladimir Poutine ou ses proches. Et ce qui les intrigue, c'est qu'elle s'enrichit brusquement au moment de la naissance de sa fille. C'est toute la famille en fait qui s'enrichit, Svetlana Krivanogik, mais aussi sa propre mère, comme on l'entend dans cet extrait de l'enquête du média russe Project.
En 2002,
la mère de Svetlana, qui n'a jamais été businesswoman, achète une maison pour 300 000 euros au bord d'un lac près de Saint-Pétersbourg, là où plusieurs proches de Poutine ont des propriétés. Et dans les mois précédant la naissance de sa fille, Svetlana achète un appartement dans le centre de Saint-Pétersbourg qui vaut aujourd'hui 500 000 euros. Sa famille achète aussi de l'immobilier à Moscou, dans un quartier chic, un appartement à 3 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. D'après nos calculs, le patrimoine immobilier de sa famille se monte à 10 millions d'euros.
Et Svetlana Krivanogik devient même propriétaire d'un yacht et d'une station de ski fréquentée par Poutine et des proches du pouvoir.
Donc on peut s'interroger sur la proximité de cette femme avec Vladimir Poutine, et elle est également actionnaire d'une banque.
Oui, et pas n'importe quelle banque, la Rossiya Bank. Ilya Rozhdestvensky est journaliste d'investigation russe pour le média Dossier Centre, qui a enquêté sur la vie privée de Vladimir Poutine.
Ce n'est même pas une banque. Je dirais que c'est une sorte de sac d'argent que vous gardez sous votre lit et que vous utilisez quand vous en avez besoin. C'est une réserve d'argent, quelque chose comme ça. Vous savez, la banque Rossiya a été sanctionnée pour la première fois en 2014. C'était au moment des toutes premières sanctions, lorsque la Russie a annexé la Crimée et que l'administration Obama a décidé de répliquer. Rossiya Bank a été l'une des premières entités à faire l'objet de sanctions. Probablement même la première. Et cette banque a été utilisée pour de très nombreuses acquisitions.
Et j'ajoute que cette banque a également investi dans le National Media Group, l'un des plus grands groupes de médias en Russie. C'est d'ailleurs ce qui a valu à Svetlana Krivanogik d'être ciblée par des sanctions internationales. Alors pas de la part de l'Union européenne ou des États-Unis, mais du Royaume-Uni et du Canada. Voici précisément ce qui est écrit sur le site du ministère des Affaires étrangères britannique pour justifier cette sanction.
Svetlana Krivanogik est actionnaire de la banque Rossiya, qui elle-même détient des parts importantes dans le National Media Group. Ce groupe contrôle d'importantes chaînes de télévision russes qui promeuvent la déstabilisation de l'Ukraine. La banque Rossiya a également réalisé des investissements substantiels en Crimée après son annexion par la Russie en 2014.
Et j'ajoute que le nom de Svetlana Krivanogik a été cité lors des Pandora Papers en 2021, une vaste enquête journalistique portant sur l'évasion et la fraude fiscale des grandes fortunes. On découvre alors qu'en 2003, l'année de la naissance de sa fille, je le rappelle, elle a acheté un appartement à Monaco pour 3 600 000 euros. Et peu de temps après ces révélations, j'ai découvert que la société qui détenait cet appartement basé aux îles Vierges britanniques, un paradis fiscal, eh bien cette société a été dissoute.
Et Svetlana Krivanogik, elle répond quoi à tout ça?
Eh bien, le média d'investigation Project a tenté de la contacter en 2020. Écoutez ce que ça donne.
Allô?
Allô, c'est Alexandre?
Allô, Svetlana?
Oui?
Bonjour, je suis journaliste pour le média Project à Moscou. Je peux vous déranger un moment?
Je suis dans un train, là. Je ne peux pas vraiment parler.
Je réunis des informations à propos de la banque Rossiya.
Je viens de dire que je ne peux pas parler maintenant.
Quand pourrais-je vous appeler alors?
Voilà, et depuis, elle a toujours refusé de répondre aux journalistes. Je lui ai envoyé un message sur son compte Instagram, mais ça n'a rien donné.
Et du côté des autorités russes, quelle réaction?
Alors, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a été interrogé sur une chaîne de télé russe à propos des révélations de Project. Je précise que ça se passe sur un marché de Noël, ce qui explique l'ambiance que vous allez entendre.
C'est complètement bidon, c'est bidon. C'est une affaire tellement extravagante, tirée par les cheveux.
Il n'y a donc rien de caché. Êtes-vous d'humeur à célébrer le nouvel an?
Pas encore. Nous sommes d'humeur à travailler pour l'instant. Aujourd'hui, c'est samedi. Le nouvel an, ce sera pour plus tard.
Voilà, rien de caché. Bon, ce qu'on comprend, c'est évidemment que tout ce qui touche à la vie privée de Vladimir Poutine est un sujet ultra sensible.
Oui, et notamment, on l'a bien compris, parce que ça vient percuter la question de l'argent noir du régime. Et du coup, il y a une grande opacité sur ce sujet, comme l'explique le correspondant de Radio France à Moscou, Sylvain Tronchet.
C'est un ancien agent du KGB, hein, Vladimir Poutine. On a peu d'éléments biographiques sur sa vie privée. On sait qu'il a été marié à une femme, Lyudmila, qui est connue, dont il a divorcé par la suite, alors qu'il était déjà président de la Russie. On sait qu'il a eu deux enfants, deux filles avec elle. Mais ensuite, a-t-il de nouveau une vie sentimentale? A-t-il de nouveau une compagne? Tout cela relève du secret d'État. Et Vladimir Poutine, par principe, ne parle jamais ou quasiment jamais de sa vie privée. Et les rares occasions où il l'a évoqué, ça a été de façon extrêmement sibylline, en éludant toutes les questions un peu précises.
Et alors, à quelle occasion il a parlé de ce sujet, Vladimir Poutine ?
En 2008, lorsqu'un tabloïd russe dévoile que Vladimir Poutine a divorcé en secret de sa femme Lyudmila et qu'il envisagerait de se remarier à une certaine Alina Kabayeva, une gymnaste médaillée d'or olympique qui a 30 ans de moins que lui, la publication de l'article provoque la colère de Vladimir Poutine. C'était lors d'un voyage officiel en Italie.
La première chose que je veux dire, c'est que dans tout ce qui a été écrit, il n'y a pas un mot de vrai. Par ailleurs, les gens ont bien sûr le droit de savoir comment vivent les acteurs de la vie publique. Mais il y a des limites. Et je n'ai jamais aimé ceux qui fourrent leur nez dans la vie privée des autres avec leurs fantasmes érotiques.
Et derrière ces mots, on sent la menace.
Oui, et d'ailleurs, quelques jours après la publication de cet article, le journal en question a été fermé. Mais d'autres journalistes ont pris le relais, comme le média russe Dossier Centre, financé par l'opposant en exil Mikhail Khodorkovsky. Il est exilé à Londres. En septembre dernier, ce média affirme que Vladimir Poutine a deux autres enfants cachés, deux fils, Ivan, 10 ans, et Vladimir Junior, 6 ans, qui vivraient dans des luxueuses résidences au bord de la mer Noire et à Saint-Pétersbourg.
Et qui serait leur mère alors ?
L'ex-championne olympique de gymnastique qu'on évoquait à l'instant, Alina Kabayeva, qui a un temps été députée à la Douma avant de diriger le conseil d'administration de ce fameux grand groupe de médias, le National Media Group.
Ah oui, et on a vu que c'est dans ce groupe qu'on retrouve justement Svetlana Krivanogik, la mère de la jeune femme qui a étudié à Paris et qui n'a jamais démenti être la fille de Vladimir Poutine.
Exactement, et ça ne s'arrête pas là, parce que selon le journaliste d'investigation russe Ilya Rozhdestvensky, le yacht qui appartient à Svetlana Krivanogik, eh bien, il serait utilisé par la nouvelle famille du président russe.
Krivanogik, through some company in Russia.
Par l'intermédiaire d'une société en Russie, elle possède un yacht qui s'appelle l'Aldoga, mais elle ne s'en sert pas. Le bateau est en fait utilisé par Vladimir Poutine lui-même, par sa femme et leurs enfants.
Voilà, alors je précise que l'ancienne championne gymnaste n'est pas officiellement sa femme. Et toujours, selon ce journaliste russe, ce yacht ne serait pas le seul utilisé par le président russe et par ses proches.
They use three yachts. The biggest one is Graceful.
Ils utilisent trois yachts. Le plus gros est le Graceful. C'est le célèbre yacht de Vladimir Poutine qui a été sanctionné par les États-Unis. Ce navire est utilisé par Poutine lui-même et par sa famille. Mais ils ont beaucoup de personnel, des gardes, des assistants, et tous ces gens les suivent dans tout le pays. C'est pour ça qu'ils ont besoin de yachts supplémentaires. Ils voyagent comme une petite flottille de deux ou trois yachts. Et c'est à ce moment-là qu'ils utilisent ce yacht, l'Aldoga, ce qui est en fait assez étrange car il appartient officiellement à son ex-maîtresse.
Et je précise enfin que les journalistes et médias russes d'investigation qui nous ont aidés et répondu pour cette enquête travaillent tous en exil en dehors de la Russie et sont classés par Moscou comme indésirables et agents de l'étranger.
Merci Maxime Tellier pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site ou sur l'appli Radio France avec une vidéo pour tout comprendre réalisée par Nicolas De Witt. Merci à Artem Nebesenko pour la traduction de l'ukrainien vers le français et un merci tout particulier à Denis Kataïev. Mais surtout, restez avec nous. Dans un instant, on part au Bangladesh, en Chine et au Brésil, dans les coulisses pas très reluisantes des sous-traitants de la marque Decathlon. Monumental, le doux mélange yéyé, pop et new wave du groupe français Junior, extrait de leur dernier album 3-2-1.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Et nous recevons à présent Pierre Lebovici, journaliste à Disclose. Vous venez de signer une enquête en 3 volets sur les petites mains, les sous-traitants de la marque Decathlon, une enseigne bien connue du grand public, avec des fournisseurs qu'on trouve notamment au Bangladesh, en Chine et au Brésil. Et ce qui ressort de votre enquête, qui s'appuie notamment sur beaucoup de documents internes, c'est vraiment la course aux économies.
Oui, en fait, Decathlon fait tout pour sélectionner les sous-traitants qui lui coûtent le moins cher possible. Et malheureusement, le prix à payer de ça, eh bien, c'est des conditions de travail déplorables, indignes pour certaines, chez certains de ses fournisseurs. On s'est particulièrement concentré sur le Bangladesh, qui est l'un des principaux pays de production de Decathlon, dans lequel la marque fait fabriquer ses chaussures Kalenji, par exemple. Et derrière ces chaussures, on a trouvé qu'il y avait des adolescents. Pourquoi ces sous-traitants embauchent des adolescents ? Eh bien parce qu'ils peuvent être rémunérés sous le salaire minimum dans le pays, c'est tout à fait légal.
Vous expliquez que c'est même un critère de sélection pour les fournisseurs, ceux qui payent les salaires les plus faibles.
Oui, effectivement, Decathlon recherche spécifiquement, ça c'est un document interne qui le confirme.
Il y a une évaluation du coût par minute d'une usine.
C'est ça, donc Decathlon sélectionne les usines qui lui coûtent le moins cher et va les mettre en compétition en calculant combien un ouvrier, une ouvrière va mettre de temps pour fabriquer une basket. Tout ça pour effectivement limiter les coûts à tout prix de ces produits.
Oui, parce qu'au Bangladesh, par exemple, pour pouvoir vendre des baskets à 13 euros en France, il faut identifier des fournisseurs qui sont qualifiés d'ultra low cost.
Oui, ultra low cost, c'est une formule qui est employée donc, dans un document interne de la marque. D'ailleurs, ce terme low cost, il revient à de nombreuses reprises dans les dizaines de documents qu'on a pu obtenir avec Disclose. Et c'est bien la preuve que pour Decathlon, ce qui compte, avant l'amour du sport, c'est bel et bien de limiter ses coûts de production. Et malheureusement, encore une fois, les ouvriers et les ouvrières, mais aussi la planète, en payent le prix. Mais d'ailleurs, cette course au profit, c'est ce qui l'a poussé à sélectionner des fournisseurs dans d'autres pays, comme la Chine, qui est son premier pays de production, qui là aussi sont tout à fait problématiques du point de vue des droits humains.
Et en Chine, là, vous avez aussi recueilli le témoignage de sous-traitants qui font travailler, par exemple, une ouvrière âgée de 12 ans.
Oui, c'est ça. On a trouvé en Chine, effectivement, chez l'un des principaux fabricants textiles de Decathlon, une jeune ouvrière de 12 ans qu'on a pu filmer en caméra cachée et qui indique être là pour donner un coup de main alors qu'elle est en train donc de boutonner un vêtement Decathlon.
Et même en Chine, c'est interdit le travail à 12 ans.
Oui, même en Chine, c'est interdit. Le travail est autorisé là-bas à partir de 16 ans. Donc ça, c'est une preuve irréfutable d'illégalité sur la chaîne d'approvisionnement directe de Decathlon puisque, encore une fois, l'usine dans laquelle on a identifié cette fillette, fabrique pour toutes les sous-marques en fait, de Decathlon, Kalenji, Domios, Kipsta, toutes ces marques qu'on connaît et qu'on retrouve dans les magasins français.
Et si on reste en Chine avec Cache Investigation en partenariat, vous vous intéressez au groupe Jifa, c'est le deuxième plus important fabricant de textiles pour Decathlon en Chine.
Oui, c'est ça. Ce groupe en particulier est impliqué dans un réseau de travail forcé, en l'occurrence de personnes ouïghours. Les ouïghours, c'est cette ethnie qui vient de l'ouest de la Chine et qui est persécutée par le pouvoir chinois. Et on a localisé notamment une usine située au Xinjiang, dans la région ouïghour, qui a travaillé pour Decathlon, alors même qu'elle intégrait, elle embauchait des ouvriers et des ouvrières ouïghours à travers des programmes de travail forcé financés par le gouvernement chinois.
Et le troisième volet de votre enquête, il est publié aujourd'hui. Il concerne cette fois les célèbres chaussures de randonnée Quechua, fabriquées avec du cuir. Et ce cuir, il est susceptible de provenir de zones déforestées illégalement au Brésil.
Oui, c'est ça. On a essayé de remonter la chaîne d'approvisionnement des chaussures en cuir Quechua, donc celles qu'on voit au pied de beaucoup d'entre nous. Ce qu'on a découvert, en fait, c'est que Decathlon a une relation commerciale directe avec une tannerie, donc une usine qui transforme le cuir, qui elle-même s'approvisionne au Brésil. C'est son premier pays de production.
Une tannerie qui est située au Vietnam.
Avant de porter des chaussures Quechua, en fait, elles ont fait un sacré chemin déjà à travers la planète. Et donc, ce cuir brésilien qui est utilisé par la tannerie qui travaille pour Decathlon, eh bien, il est notamment produit par JBS. JBS, c'est un nom qu'on connaît peu en France, mais c'est tout simplement le premier producteur de bœuf au monde. C'est un quart du marché mondial du bœuf qui lui revient. Et c'est aussi le premier transformateur de peau en cuir.
Parce que l'élevage de bœuf, on le rappelle, c'est la première cause de déforestation au Brésil.
Oui, ça c'est important de le rappeler. On peut imaginer que c'est le soja ou la culture ou de l'huile de palme ou du cacao qui sont les causes de la déforestation au Brésil. Non, c'est de très loin l'élevage de bœuf qui cause la déforestation. À peu près 80% de la déforestation de l'Amazonie ces 50 dernières années est liée à l'élevage du bœuf. Et il se trouve que l'industrie de la chaussure est l'une des industries qui mobilise le plus donc cette matière première. On a réussi à remonter à plusieurs fermes qui ont mené des opérations de déforestation illégale et qui ont ensuite vendu leur bétail à JBS, cette société brésilienne, qui a donc ensuite vendu son cuir aux partenaires de Decathlon.
Donc évidemment, votre enquête, elle pose la question des conditions de travail, on l'a bien compris, mais aussi de la transparence et du contrôle auprès de ces fournisseurs et sous-traitants. Vous dites, si on revient au Bangladesh, qu'il existe des usines de fabrication qui ne seraient pas contrôlées, en fait, par Decathlon.
Oui,
comme des usines clandestines.
Des usines clandestines, c'est le terme effectivement qui est utilisé par un ancien salarié de la marque que j'ai pu rencontrer. En fait, il désigne par là des usines qui fournissent jusqu'à 10% des composants d'une basket, dans lesquelles la marque n'effectue aucun contrôle. Elles sont invisibles dans sa chaîne d'approvisionnement, et pourtant, elles sont fondamentales pour vendre une paire de chaussures pour quelques euros. Pourquoi Decathlon fait appel à ses fournisseurs ? Eh bien, encore une fois, c'est pour la question du coût de fabrication, puisque ne pas mener d'audit dans ces usines, eh bien, ça permet d'éviter de respecter la réglementation. En tout cas, ça, c'est une suspicion qui a été confirmée par plusieurs sources. Ces usines clandestines, ce sont celles où on trouve le plus de problèmes de conformité par rapport aux droits humains ou à la sûreté des travailleurs et des travailleuses.
Et alors, que répond Decathlon à votre enquête ?
Alors, Decathlon confirme déjà avoir des relations commerciales avec l'intégralité des fournisseurs qu'on cite dans nos enquêtes. Ensuite, la marque nous indique qu'elle mène des audits réguliers chez ses fournisseurs, plus de 800 en 2024. Le problème, c'est que ce chiffre, il est en baisse. Deux ans plus tôt, elle en avait mené 20% de plus. Donc ça interroge déjà sur la réalité des efforts de la marque pour mieux connaître sa chaîne d'approvisionnement. Ensuite, Decathlon nous dit donc qu'au-delà de ces audits, il y a un code de conduite qui doit être signé par l'intégralité de ses fournisseurs. Et donc, c'est leur rôle, bien sûr, de s'assurer qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits humains ou à l'environnement. Decathlon, en tant que multinationale française, est soumise à la loi sur le devoir de vigilance. Et donc, elle est tenue responsable des manquements qui auraient lieu sur sa chaîne d'approvisionnement. Ce pourquoi, à notre sens, elle devrait s'intéresser de beaucoup plus près à ces différents maillons de la chaîne.
Merci Pierre Lebovici. Votre enquête en partenariat avec H Investigation est donc à lire sur le site de Disclose. Et je précise que vous pouvez retrouver cet entretien en long format sur notre site et sur l'application Radio France. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique Anne-Laure Cochet et Élise Christophe. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.